France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Un pont sur la Seine, c'est celui que nous présente Pauline Dreyfus, écrivaine et folle d'histoire. C'est un pont entre deux rives, bien sûr, mais aussi un pont entre l'histoire et la littérature, entre la littérature et l'histoire, la fiction, le passé dans un sens et dans l'autre. Ben oui, parce qu'un pont, ça se franchit dans les deux sens. Mais où est-il, ce pont ?
Monsieur, puisque vous m'interrogez sur Thomery, et je suis très heureux d'en être le maire, Thomery se trouve à 8 km de Fontainebleau, baigné par la Seine, adossé à la forêt de Fontainebleau. 250 km de murs restent actuellement en exploitation.
En exploitation, dites-vous, parce que ce sont des murs où sont collées les treilles que nous avons sous les yeux actuellement, où on poursuit la cueillette du raisin, les murs qui sont la gloire de Thomery.
Mais parfaitement, la gloire de Thomery. Et mon Dieu, je veux dire que Thomery est connu dans le monde entier. Grâce à son raisin, à son chasselas, dont la conservation a pu arriver à donner des résultats appréciables jusqu'au mois d'avril, ce qui est une chose extraordinaire.
Bah, extraordinaire, en effet, le maire de Thomery en 1953. Bonjour Pauline Dreyfus.
Bonjour.
Vous l'avez goûté, ce raisin de Thomery ?
Ah, mais je mange chaque année. Je me demandais de quand datait votre archive, parce que je me suis dit ça doit être assez ancien, puisque hélas, on ne cultive plus de chasselas à Thomery, en tout cas plus de façon commerciale. Il y en a encore dans quelques jardins privés. C'est une culture qui a été glorieuse, qui a apporté la prospérité à ce village entièrement strié de murs. C'est très spectaculaire à voir. Et malheureusement, la concurrence étrangère a fait que les cultivateurs ont cessé de l'être.
Où se trouve Thomery ?
Thomery est en Seine-et-Marne, à 5 km de Fontainebleau, au bord de la Seine.
Avec ce raisin de Thomery, qui apparaît d'ailleurs dès les premières pages de votre roman Pauline Dreyfus, Un pont sur la Seine, que vous publiez aux éditions Grasset, la fierté de celui qui peut vendre son raisin jusqu'en Russie. Ce n'est pas rien.
C'est pas rien du tout. Il y avait en effet une espèce de d'immense fierté à savoir que ce savoir-faire très particulier, rencontrait un succès incroyable. Le chasselas, qui est au fond un raisin de table, hein, c'est pas du raisin fait pour faire de l'alcool ou du vin, était au début du siècle un produit de luxe. Notamment, il s'en vendait énormément à Noël. Et les viticulteurs de Thomery, pour pouvoir le vendre à Noël, avait découvert un procédé incroyable de conservation du raisin. Donc on faisait la vendange en octobre et on mettait les grappes de raisin dans des caves, dans l'obscurité, avec trempant dans une petite fiole d'eau avec un morceau de charbon. Et on conservait comme ça le raisin intact jusque au mois d'avril, ce que disait le maire de Thomery dans votre archive.
Avec la volonté même de le vendre loin et de le vendre cher et jusqu'à la table des tsars.
Absolument.
Parce que c'est vraiment ici ce prestige de Thomery, ce petit village. Nous sommes au sud-est de Paris, nous sommes pas très loin de Fontainebleau. C'est un village absolument sensationnel et vous, Pauline Dreyfus, il est lié aussi à votre vécu. Vous avez des attaches à Thomery.
J'ai des attaches à Thomery, sinon je n'aurais pas eu l'idée de parler de ce pont, puisque c'est là que j'ai grandi, c'est là que mes grands-parents avaient leur maison, maison qui avait été achetée par mon arrière-grand-père en 1912. Donc vous voyez, on était installés depuis longtemps dans la région. J'ai passé 12 ans au conseil municipal, donc voilà, je connais bien les gens du village, je connais l'histoire du village, et de là est venue l'idée de parler de ce pont.
Quel est-il ce pont ? D'ailleurs, un pont, c'est l'idée de franchir quelque chose. Vous nous racontez l'histoire de ce pont, de sa création, jusqu'à tout ce qu'il porte d'histoire.
Alors, ce qui est très intéressant d'abord, c'est de savoir ce qui se passait quand il n'y avait pas de pont. Comment est-ce qu'on traversait la Seine ? Bien évidemment par le bac. Et il y a eu des accidents nombreux, notamment un très grave qui a fait 18 morts en 1828, parce que il faut imaginer que les gens ne savaient pas nager. Ils avaient beau habiter à proximité du fleuve, ils ne savaient pas nager et la chute était fatale. Donc ce pont, d'abord, a été un moyen d'envisager la traversée du fleuve en toute sécurité. C'était vraiment la première idée. Ensuite, le pont, c'est une route supplémentaire finalement. Donc, ça accélère les communications entre les hommes, entre les marchandises. Ça favorise le commerce, tout simplement, il faut bien le dire. Et pour ces viticulteurs qui avaient besoin de saisonniers, parce que le travail de la vigne est un travail très minutieux, qui demande beaucoup de main-d'œuvre, eh bien, le pont permettait de faire venir, de la rive d'en face, de ce village de Champagne-sur-Seine, des saisonniers qui n'étaient pas là à temps plein, mais qui étaient là quand on avait besoin d'eux. Donc, au départ, ce pont a été vécu comme un miracle.
Oui, parce qu'un pont sur la Seine, hein, votre roman commence en 1828 avec un accident, le Bac qui chavire, et c'est absolument dramatique. Et dès lors, l'idée de construire un pont s'impose. Il faut du temps avant qu'il soit construit. Hein.
Alors, il a été demandé pendant de nombreuses années, sans être obtenu. Et il a fallu qu'arrive le Second Empire, dans cette frénésie de modernisation du pays, pour que le premier pont soit construit en 1864.
Et là, vous relevez, et de manière très subtile, je trouve ça toujours particulièrement pertinent, comment ces petites choses transforment la vie. Vous nous l'avez dit, ces saisonniers qui doivent se déplacer. Quand il faut prendre le bac, il faut payer le bac, il faut donner une pièce. Quand le pont est là, on ne donne plus de pièces. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile et plus rentable.
Alors, j'apporte une nuance à ce que vous dites, c'est que le premier pont était payant.
Il y a un péage.
C'était un pont à péage, mais le péage était remboursé par l'employeur. Donc, en fait, ça ne leur coûtait rien. Et c'est seulement à partir de la fin du 19e siècle que le pont est devenu gratuit.
Avec ici l'idée de prendre le pont comme personnage principal de votre
sûr,
roman.
C'était ça qui m'intéressait, c'était de se dire au fond, le pont, il a vu passer toutes les péripéties de l'histoire. Il peut évidemment pas parler, mais je peux peut-être le faire à sa place. Et le pont, pour moi, il est l'équivalent de l'arbitre d'un match de tennis qui passe son temps, vous savez, à tourner la tête à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. C'est-à-dire qu'il observe le sens de l'histoire. Et comme chacun sait, le sens de l'histoire, c'est une girouette. Donc, elle n'est pas toujours orientée dans le même sens. Et il y a une rive gauche, une rive droite, puisqu'on est de part et d'autre d'un fleuve. Très vite, ce pont, qui est censé relier des hommes, va plutôt créer une rivalité, une concurrence entre les deux rives. La bonne rive, c'est au fond celle où on trouve du travail. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le travail qui va se déplacer d'une rive à l'autre à cause de la transformation de tout un pays qui est le nôtre, qui est la France, un pays qui était rural et qui va devenir industriel.
Et c'est ça, vraiment, c'est de voir avec ces deux rives, ces transformations qui ne se font pas au même rythme. Et c'est toujours intéressant d'imaginer ces processus, l'industrialisation que nous imaginons identique sur l'ensemble du territoire. La France s'industrialise. Mais non, ce n'est pas comme ça.
Non, ce n'est pas comme ça. L'histoire ne m'intéresse qu'à hauteur d'homme. Alors, on parle d'industrialisation, mais concrètement, l'industrialisation, c'est une usine, c'est des gens qui vont y travailler, c'est des gens qui vont quitter la viticulture parce qu'ils en ont assez des caprices du climat, des champignons, du salaire parfois aléatoire, puisque une récolte, elle peut être détruite en une demi-heure par un orage de grêle. Et l'usine va représenter la sécurité de l'emploi. On n'est plus dehors, on est à l'intérieur, on a un salaire fixe. Il faut ajouter que on est à l'époque où c'est le règne du paternalisme, et donc l'usine apporte des avantages incroyable. L'usine est une promotion sociale à cette époque, ce que ça n'est plus du tout aujourd'hui. Mais aller à l'usine, quitter le travail des champs, c'est s'élever dans l'échelle sociale.
Et puis dans un monde qui connaît un accroissement démographique considérable, hein, c'est cette transition démographique avec plein de gens qui n'ont plus de place à la ferme, faut trouver du travail. Et donc il y a ici cette possibilité qu'est l'usine, qui est porteuse d'un avenir. Et vous le dites, et on le sait bien, les conditions de travail peuvent être absolument déplorables au 19e siècle. C'est une horreur en temps de travail et en conditions. Et dans le même temps, il y a l'idée que les choses peuvent changer. C'est toute une histoire sociale que vous écrivez à travers ce pont.
Oui, et il faut ajouter que cette usine, elle représente un espoir pour les enfants de ces gens-là. Puisque l'idée, c'est que leurs enfants, après eux, iront travailler à l'usine. L'usine, au fond, va voir se succéder beaucoup de générations. C'est du moins le vœu des parents qui rentrent dans cette usine.
Elle fabrique quoi, cette usine ?
Alors, cette usine fabrique de l'électricité, figurez-vous. Elle est construite en 1903. C'est une usine Schneider. Et l'anecdote assez amusante, c'est que Schneider, la maison mère, est au Creusot, comme chacun sait. La fameuse aciérie du Creusot. Et qu'il y a eu des manifestations extrêmement violentes menées par le syndicat des électriciens en 1899. Et la direction s'est dit, ce serait peut-être une bonne idée d'éloigner les meneurs, de les mettre un peu à l'écart. Et donc on les a mis à Champagne-sur-Seine, assez loin du Creusot, dans cette usine donc toute neuve, qui avait un avantage, c'est celui d'être au bord de la Seine, ce qui était très très commode pour le transport des matériaux, et à une heure de Paris, au moment où Schneider était chargé de participer à la construction du métropolitain parisien, qui était électrifié. Et donc c'était un énorme chantier, et cette usine a cru extrêmement vite. Elle a enflé, tous les ans il fallait embaucher de nouvelles personnes. Le village de Champagne, parce qu'au départ c'était un petit village agricole lui aussi, et petit à petit a enflé au même rythme que l'usine, et est devenue une petite ville industrielle, où au fond toute la vie de la commune tournait autour de l'usine. C'est-à-dire que tout le monde soit travaillait à l'usine, soit travaillait pour l'usine. Enfin, il y avait toujours un rapport avec le travail de l'usine. Voilà, ça c'est l'histoire. Et ça a continué comme ça pendant toute la première moitié du XXe siècle.
Pauline Dreyfus, vous venez de dire ça c'est l'histoire. Or, Un pont sur la Seine est un roman, c'est écrit dessus.
Oui, c'est un roman parce que je m'appuie sur des faits historiques, mais tous les personnages que vous suivez dans ce livre sont des personnages de pure fiction. Si vous voulez, pour moi, l'histoire est au romancier ce que la perche est au perchiste. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de donner de l'élan. Et c'est pas rien, l'élan. J'entendais l'autre jour, dans votre émission, Clara Dupont-Mono qui disait une chose très, très juste. Elle disait, les blancs de l'histoire sont le cauchemar des historiens et la gourmandise des romanciers. C'est une jolie façon de dire les choses. Je suis entièrement d'accord avec elle. Moi, je peux vous dire que l'usine a existé et hélas n'existe plus. C'est la fameuse désindustrialisation. Que la vigne a existé. Maintenant, ces deux frères que j'imagine faisant des choix différents, puisque l'un reste viticulteur et l'autre, au contraire, va à l'usine, ce qui va déterminer toute la suite de leur existence, ces deux frères sont un pur produit de mon imagination fertile.
Et Thomery, d'ailleurs, ne s'appelle pas Thomery dans votre roman.
Non, ça s'appelle Saint-Amand, du nom de l'église de Thomery.
Pourquoi, d'ailleurs, avoir changé le nom ?
J'ai eu, un scrupule à l'appeler ainsi. J'aurais peut-être dû laisser son vrai nom, en me disant que je voulais pas que les Thomeryons et les Thomeryonnes, puisque c'est le nom des habitants de ce village, ne prennent mal le récit de la dégringolade viticole, même si elle a eu lieu.
Et donc, nous suivons l'histoire de ce pont et des deux rives, en fait, des deux villages, sur presque plus d'un siècle. Oui, plus d'un siècle.
Sur quatre générations.
C'est ça, c'est sensationnel toujours, hein, ces regards sur le temps long, parce qu'on sent ces processus que l'on ne voit pas quand on regarde un moment très précis. Et puis, s'intéresser aussi à des petites choses, des approches particulières. Pour vous, ça se passe entre la bouche et le nez.
Oh, les belles moustaches, moustaches, moustaches. Non, jamais on n'en a vu un aussi moustachu. Oh, les belles moustaches, moustaches, moustaches. Qui c'est donc qui a donné autant de poils sous le nez? C'est la providence, c'est la destinée. Celle qui fait pousser les hommes poissons et femmes à barbe. Calmez vos alarmes et séchez vos larmes. Car lui, il n'en a que plus de charme. Oh, les belles moustaches, moustaches, moustaches. Vive la France et vive l'armée. Et vive le poil sous le nez.
Francis Blanche qui chantait ses belles moustaches dans Un pont sur la Seine. Pauline Dreyfus, grande attention accordée aux moustaches. En 1900, les seuls hommes à se raser la moustache étaient les curés, les acteurs et ceux qu'on appelait alors les gens de maison. Nous tournons mais une centaine de pages, même plus, dans les années 1960, les étudiants se laissaient volontiers pousser la moustache. Pourquoi cet intérêt pour le poil facial ?
Parce que la moustache est un formidable et minuscule indicateur de l'évolution de la mode, en l'occurrence masculine. Mais moi, j'aime les détails, parce que il n'y a pas que le diable qui se cache dans les détails. Il y a beaucoup de choses. Et en effet, j'ai démarré sur la moustache pour enchaîner sur la moustache des années 70, parce que voilà. Encore une fois, c'est le sens de l'histoire et on tourne toujours en rond de la même façon dans ce roman. À deux reprises, je montre des gens perdus parce que économiquement mal en point. D'abord les viticulteurs, puis malheureusement les gens de l'usine, qui vont à tour de rôle voir le ministre en charge de leur dossier, si je puis dire. Donc, les viticulteurs vont voir en 1932 André Tardieu, ministre de l'Agriculture de l'époque, et en 93, les syndicalistes de l'usine vont voir Dominique Strauss-Kahn, qui est le ministre de l'Industrie. Et de la même façon, comme un effet de miroir au fond, ils vont se heurter les uns et les autres à une indifférence totale. C'est-à-dire que l'homme politique a malheureusement souvent tendance à pratiquer la stratégie de la patate chaude, ce qui veut dire refiler les problèmes à son successeur. Alors, sous la Troisième République, on sait que le successeur, il va arriver très vite, parce que les gouvernements tournent très souvent. Ils tournent moins vite sous la Cinquième République. Mais je voulais montrer tout de même que ce petit coin de France, où il n'y a pas vraiment d'enjeu politique pour les ministres, ils s'en désintéressent.
Et c'est l'intérêt aussi d'avoir ce regard à travers les générations, parce que cette patate chaude, quelque part, elle passe aussi de génération en génération, génération ministérielle. Et puis les gens eux-mêmes sont obligés à s'adapter à des contextes différents, mais avec ce poids du temps qui passe. Quelqu'un qui agit à un moment donné est quand même le fruit de tout son vécu, et il y a parfois des dizaines et des dizaines d'années, et du vécu de sa famille. Ce regard familial, c'était important pour vous de le mettre en avant?
Ah bah oui, parce que j'adore les histoires de famille. La famille, c'est absolument passionnant. Elles sont pas forcément dysfonctionnelles, mais elles disent quelque chose de du rapport qu'on peut entretenir les uns avec les autres. Une famille, c'est une cellule extrêmement intéressante à observer de ce point de vue-là. Donc, bien sûr, il y a une famille compliquée dans mon roman, parce que à la suite de la guerre de 14, qui va creuser cette rivalité entre les deux rives, les gens de l'usine, ils vont pas rester au front, ils vont retourner à l'usine pour fabriquer des obus, puisqu'on a compris que le conflit allait être très long, alors que les pauvres viticulteurs, ben, ils vont pas revenir de la guerre, ils vont constituer ce qu'on a appelé la chair à canon. Et évidemment, c'est une injustice absolue qui va laisser des traces dans la famille, et pire que des traces, des rancœurs sérieuses. C'est-à-dire qu'il y a une des deux belles-sœurs qui est veuve et l'autre qui ne l'est pas. Et ça, on ne pardonne jamais à ceux qui n'ont pas eu l'épreuve du feu, en fait.
Avec ces moments en particulier que sont les guerres, les moments intenses, dans la volonté aussi de tracer l'histoire de ce pont, un pont sur la Seine, Pauline Dreyfus, c'est traverser notre histoire également, mais vu d'un point. C'est toujours intéressant hein, de plutôt lever la tête et de regarder un peu comment ça se passe. Ici, nous sommes donc du côté de Fontainebleau. Oui.
Absolument. Et le pont, alors vous parliez des guerres, et c'est très intéressant les guerres, parce que on oublie toujours que le pont est en général la première victime dans une guerre. Pourquoi? C'est parce que on a le réflexe, pour retarder l'avancée de l'ennemi, de faire sauter les ponts. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé par exemple en juin 40, où pas seulement sur la Seine, mais par exemple sur la Loire aussi, l'état-major français a donné l'ordre de miner les ponts et de les faire sauter. Vous savez comme moi que ça n'a pas servi à grand-chose, puisque les Allemands ont quand même occupé notre pays. Mais ce réflexe de court-circuiter les moyens de communication, il est éternel, en fait. Voilà, je me suis aperçue de ça.
Oui, parce que dans Un pont sur la Seine, vous nous l'avez dit, le pont est construit sous le Second Empire, mais très rapidement.
Il a eu pas mal d'avatars, en fait, parce que très rapidement, donc il est construit en 1864, et puis patatras, vous avez la guerre de 1870. Et donc là, il a été très endommagé. Donc à un moment donné, on s'aperçoit qu'il est vraiment pas en bon état, et en 1897, on refait un pont tout neuf. Alors, la guerre de 14 n'a pas concerné le pont parce que les combats ont eu lieu dans une autre région, plus au nord, plus à l'est. Mais ce pont de 1897, il est détruit en 40. On en reconstruit un pendant la guerre. Il est à nouveau détruit en 44. Alors cette fois-ci, en sens inverse, par les Allemands qui veulent ralentir l'arrivée des armées alliées. On en remet un provisoire, un pont Bailey, comme on appelait ça, qui sont des ponts militaires en 63. Et le pont actuel, pour l'instant qui est toujours là, il date de 1981.
Voilà, c'est un pont récent avec ici cette idée de suivre les générations issues d'une même famille. Enfin, c'est ça qui est très fort, hein, c'est de voir ces divisions. Et dans cette démarche-là, Pauline Dreyfus, il y a ces idées de déchirement de génération en génération, de choix différents et parfois l'héritage par un mariage d'une histoire antérieure qu'on ne maîtrise pas toujours.
Oui, et j'ajouterais aussi une histoire de déclassement. C'est-à-dire que au fil des générations, entre cousins, ben certains ont mieux réussi que d'autres, certains perdent leur emploi, certains, au contraire, se retrouvent avec une petite bicoque que tout le monde méprisait et qui vaut beaucoup d'argent. Et c'est très intéressant, ceux qui pensaient être, j'allais dire un peu familièrement, les rois du pétrole, en tout cas ceux qui descendent de la branche de l'usine, l'usine où on se sentait très supérieur socialement, on avait l'impression d'avoir ce que je disais tout à l'heure, d'avoir grimpé l'échelle sociale. Et à partir du moment où l'usine est en train de péricliter, va licencier petit à petit ses employés et ses ouvriers, et c'est pas terminé. J'entendais ce matin à la radio que 700 personnes chez Brandt étaient licenciées. C'est un phénomène de longue haleine en France. Finalement, la branche autrefois viticole, qui s'est un petit peu gentrifiée au fond, est supérieure à l'ancienne. Et c'est très intéressant de voir comment les équilibres changent dans une famille. Je dis à un moment donné, je mets ça dans la bouche du patriarche, du fondateur de la famille, on est toujours le paysan de quelqu'un. Et je crois que c'est très vrai. Et ce livre montre sur un siècle comment cette notion a évolué.
Avec Pauline Dreyfus, ces attaches que vous avez à ce lieu, à Thomerie, petite maison, vous avez été modeste, hein. Grosse maison.
Ben, grosse maison, voilà. Oui. Grosse maison, mais qui n'est plus là, qui a été vendue.
Ah là, qui a été vendue, qui a un château, enfin un petit château. Ici, nous avons évidemment l'idée que vous, en tant qu'autrice, au moment de réfléchir à ce lieu, à ces familles, vous pouvez vous projeter, vous vous sentez, vous, plutôt de ce côté viticole ou de ce côté industriel ?
Ah ben, viticole, bien sûr, parce que moi, j'adore la nature. J'aime les plantes, j'aime les roses, j'aime les fleurs. C'est pour ça que j'ai, entre autres, consacré un livre à Colette, qui les aimait beaucoup. Non, je suis du côté viticole.
Ce côté viticole, c'est aussi un rapport à la nature particulier que nous avons. Hein. L'industrialisation a des effets majeurs. Et puisque nous sommes du côté de Thomerie, du côté de Fontainebleau, l'école de Barbizon, c'est pas bien loin. Rosa Bonheur, elle est installée dans le coin, cette artiste absolument magnifique qui œuvre sous le Second Empire.
Elle est à Thomerie, hein, Rosa Bonheur, bien sûr.
Et donc, ici, ça évoque aussi le mouvement lié à l'école de Barbizon. C'est figer cette nature un peu idéalisée, et même totalement idéalisée, avant qu'elle ne disparaisse, transformée par l'industrialisation. Il y a un peu de ça aussi, cette idée que l'on assiste au fil du temps à des changements, à un monde qui se transforme en se transformant, qui perd quelque chose.
Oui, de toute façon, le changement des paysages, c'est un thème constant dans la littérature. Je pense que ce changement dont vous parlez, il est intéressant du côté de la rive droite à Champagne, parce que cette usine, qui est gigantesque, qu'on surnommait une cathédrale industrielle, a donc en quelque sorte créé la ville. Et à l'époque, il était très moderne de faire des maisons en meulière. Donc la ville, on a détruit les petites chaumières avec des toits de tuiles ravissantes de l'époque viticole pour faire ces grandes avenues avec ces bâtiments en meulière qui, il faut bien le dire, ont très mal vieilli. Parce que aujourd'hui, ça nous paraît très triste. Donc je suis plutôt sensible, en effet, à la disparition de certains paysages. Oui,
oui, c'est ça aussi hein, qui nous touche, parce que nous construisons notre imaginaire à partir de lieux, d'endroits, de paysages. Vous avez cité Colette, elle est avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire.
Dans le sein frais de la colline, il me reçut sans que je mise pied à terre. C'est moi qui, sur mon char, faisais figure de conquérante. Au-delà des grandes portes béantes, le cru Beaujolais, semblait retirer à même une grotte. Et de son haut plafond, il me jeta ensemble une chape glacée d'air immobile, la divine et boueuse odeur des raisins foulés et le bourdonnement de leur ébullition. 100 mètres de voûte qui s'étoilait de lampes, les cuves rejetaient par-dessus leur bord la bave rose en long feston. Un attelage de chevaux pommelés, bleuâtre dans la pénombre, mâchait nonchalamment des grappes tombées. L'âme du vin nouveau, lourde, à peine née, impure, se mariait à la vapeur des chevaux mouillés. Une main d'homme brandit vers moi au bout de son bras invisible la tasse d'argent qui berçait sur les stries et les bosses de la césure une étincelle rouge. « Madame, goûtez ce 44 qui est parfait, mais n'oubliez pas de revenir goûter le 47 quand il en sera temps. »
Ce sont les improvisations de Colette, les vendanges en Beaujolais. Avec Colette, là, nous étions ici en 1948 à goûter cela avec Colette. Alors là, nous ne sommes pas du côté de Thomery. Il faut continuer un petit peu vers le sud-est. Nous arrivons en Puisaye et là, nous croisons Thomery. Pourquoi vous, Pauline Dreyfus, vous êtes autant intéressée à Colette? Vous lui avez donc, vous l'avez dit, consacré un ouvrage.
Parce que Colette, c'est un auteur que je lis depuis que j'ai 12 ans et que surtout je n'ai jamais cessé de lire, donc je l'ai beaucoup relu. Elle m'accompagne, je ne peux pas vous dire autre chose. Et quand on m'a proposé pour cette collection qui s'appelle « Ma vie avec » de choisir un auteur qui est au fond devenu un ami au fil des années, j'ai mis moins de 5 secondes à dire je prendrai Colette. Ce que j'aime beaucoup dans l'archive que vous venez de diffuser, il y a plein de choses. D'abord, il y a l'accent merveilleux de Colette. Cet accent bourguignon qu'elle n'a jamais perdu, alors même qu'elle avait quitté la Bourgogne à l'âge de 17 ans pour se marier. Elle aurait pu le perdre et je pense qu'elle a pris bien garde à ne pas le à garder ce qui était sa marque de fabrique. La deuxième chose, c'est que quand elle parle du vin comme elle le fait, ça nous rappelle à quel point Colette avait un lien très particulier avec la gourmandise, avec ce qui se boit et ce qui se mange. Vous savez qu'elle était très gourmande. De ce point de vue-là, la Seconde Guerre mondiale a été un calvaire pour elle. Les problèmes de ravitaillement, les pénuries, elle en a beaucoup souffert. Heureusement, sa fille, qui était en Corrèze, lui envoyait des poulets, du miel, des œufs, mais enfin, elle était malheureuse comme tout. Et elle a pas mal fréquenté d'ailleurs les restaurants du marché noir. Et la troisième chose que m'inspire cette archive, c'est la beauté et la richesse de la langue de Colette. Cette abondance lexicale qui est inouïe quand on sait que Colette n'avait pas le bac. Colette s'est arrêtée au certificat d'études. Mais ça nous donne une assez bonne idée de ce que les hussards noirs de la République enseignaient aux enfants. C'est-à-dire une grammaire phénoménale, un vocabulaire inouï de richesse. Et Colette a cessé l'école à 14 ans. Je trouve que c'est formidable. Voilà. Non, Colette, il faut lire, il faut relire Colette. Il y a une exposition à la Bibliothèque nationale en ce moment qui lui est consacrée. Et puis, si on a l'occasion, il faut aller à Saint-Sauveur en Puisaye, qui est un endroit exceptionnel de charme, qui a été restauré admirablement par Frédéric Maget, qui est le président de la Société des Amis de Colette et qui dirige cet établissement. C'est un musée qui n'a pas l'air d'être un musée. Et dans ma bouche, c'est un énorme compliment. C'est-à-dire qu'on a vraiment reconstitué une maison. La table est mise, on a l'impression qu'on va passer à table dans 5 minutes. Le jardin de Sido, merveilleux. Et tout a été reconstitué dans la fidélité absolue au texte de Colette. C'est-à-dire que Colette avait fait des descriptions tellement précises de la maison de son enfance, notamment dans, à mon avis, un de ses chefs-d'œuvre, qui est la Maison de Claudine, qu'il leur a été très facile de savoir que le papier peint de la salle à manger était bleu, qu'il y avait des abricotiers à tel endroit du jardin, et que dans la chambre de la petite Colette, quand elle se levait le matin avec ses pieds nus, elle posait le pied sur un carrelage rouge. Et tout ça, c'était dans ses livres. Il n'y a eu qu'à reprendre les livres pour reconstituer de la maison. Donc vraiment, je ne saurais trop conseiller à vos auditeurs d'aller voir Saint-Sauveur en Puisaye.
Avec l'idée de faire un musée aussi d'un lieu. Mais alors, musée veut dire beaucoup de choses. Et dans Un pont sur la Seine, Pauline Dreyfus, l'idée du musée apparaît aussi. Alors, c'est une idée complexe, celle du musée, ici.
C'est une idée plus que complexe, c'est une idée saugrenue. Que pourtant a l'un des descendants de cette famille Vernet, qui, très curieusement, s'est entiché de ce pont, trouve qu'on ne lui rend pas assez hommage, et se dit, dans un pays où les musées pullule, pourquoi ne pas faire un musée du pont ? Et là, évidemment, vous aurez compris que je me moque un petit peu de, notamment, du vocabulaire employé par les musées dans ce qu'on appelle pompeusement une déambulation muséale, qui naturellement comporte une séquence émotionnelle, mais également une séquence pédagogique. Et je me suis bien amusée, voilà, à mettre en boîte ces musées, parce que je trouve que fondamentalement, ce qui est un peu dommage, c'est que on peut pas transformer ce qui a été de vraies existences, parfois compliquées, parfois joyeuses, comme les nôtres au fond, en parcours immersif. Ça, c'est vraiment une expression qui moi me hérisse. Il y en a partout en ce moment, des parcours immersifs. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et je trouve que, malheureusement, on a tendance à mettre le passé sous cloche. Et cette cloche, ça s'appelle un musée. C'est très important, le patrimoine. Je ne dirais pas le contraire. Il y a des musées admirables en France. Mais cette démarche est devenue à ce point systématique qu'elle me dérange.
Mais Pauline Dreyfus, en écrivant un roman, en mettant en scène des gens à travers les générations, il y a aussi la volonté de donner quelque chose d'immersif, en tout cas de proposer au lecteur, à la lectrice, de ressentir ou de réfléchir sur des situations particulières. Tout le questionnement, c'est aussi la transmission du passé ou au moins le goût d'aller explorer le passé. Alors, est-ce qu'un roman ne serait pas un parcours immersif ?
Ah, c'est génial, votre remarque. Je trouve ça génial, je n'y ai jamais pensé. Mais au fond, vous n'avez pas tort. Un roman est un parcours immersif. Mais alors, c'est un parcours immersif qui, tout de même, essaye de se mettre dans la peau des personnages, dans la psychologie des personnages, de rendre tout ça très vivant, même avec des détails, on parlait de la moustache tout à l'heure. Il y a dans les musées quand même quelque chose de très figé, de très académique, qui ne me plaît pas beaucoup.
Non, mais je comprends bien l'idée, vous avez parfaitement raison. Nous savons qu'une lampe de mineur, un outil qui a été utilisé dans un champ, quand il est placé sous une vitrine et qu'il devient objet de musée, perd aussi une partie de son environnement, de son contexte. Et c'est là où on peut mettre en avant toutes ces démarches partout en France, dans les musées, pour tenter, en fait, mais ce qu'on disait, d'éveiller la curiosité.
C'est le principe même du musée, et bien sûr, il en faut. Mais vous voyez, quand on visite Versailles, Vaux-le-Vicomte, ces grands châteaux, et que naturellement, il y a des cordons devant les fauteuils, pour pas que quelqu'un ait la tentation de s'y asseoir, ce que je comprends très bien, il y a des soirées très fragiles. Mais au fond, on a à chaque fois l'impression de s'arrêter au seuil de la pièce, donc au seuil de la vie. Autrefois, il y a eu des gens qui se sont assis là, qui ont bavardé, qui se sont peut-être disputés, qui se sont même aimés. Et je suis toujours un petit peu gênée de rester comme ça, au seuil des choses.
Avec le roman, et ça c'est la force de la littérature, c'est que les limites sont repoussées. Vous pouvez tout faire dans un roman et c'est absolument merveilleux qu'il s'agisse d'imaginer un parcours immersif dans un musée ou surtout d'écrire un roman. Évidemment, c'est tout de suite l'aventure.
Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à Pâques fleurie, jetons mes sabots, tes galoches, et léger comme des cabris. courons après les sons de cloche, ding ding dong, les matines sonnent en l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne, j'ai graissé la patte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon, courons guilleur et guillerette, il suffit de passer le pont, et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères, c'est pas le coquelicot, Dieu merci, ni le coucou, mais la primevère. J'en vois une blottie sous les feuilles, elle est en velours comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille, je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de trois petits bonds, c'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon, j'aurais ménagé tes dentelles. J'ai graissé la patte au berger pour lui faire jouer une aubade. L'or m'a mis sans croire au danger, faisons mille et une gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse, si le chardon s'y pique dedans, ne pleure pas mamie qui souffre, je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher, on peut s'aimer comme bon nous semble, et tant mieux si c'est un péché, nous irons en enfer ensemble. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon.
Il suffit de passer le pont, Georges Brassens. Un véritable plaisir dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec à la technique Nicolas Leroulet. Aujourd'hui, un pont sur la Seine. Bah voilà, c'est tout de suite l'aventure, votre roman Pauline Dreyfus que vous publiez chez Grasset. Et l'idée d'inventer deux familles, d'inventer des personnages à un moment où, dans la littérature, ben nous le constatons, il y a beaucoup de romans familiaux, de sagas familiales, où sa propre famille sert d'inspiration pour faire de la fiction. Des démarches passionnantes hein, et particulières. Pauline Dreyfus, pourquoi ne pas avoir saisi votre famille? Parce que vous avez dit que vous avez un lien avec Thomery.
Ben, ce sera peut-être pour un prochain livre, mais il y a beaucoup à dire, parce que j'ai un pédigré un petit peu compliqué, un petit peu en forme d'oxymore, si vous voulez, avec deux familles très différentes, une branche maternelle, qui est la branche de Thomery d'ailleurs, avec un grand-père qui a eu des ennuis après la guerre, qui était très pétainiste. Je dirais pas collaborateur, parce que pour moi, collaborateur, c'est, il faut être... faire partie des rouages administratifs, ce qui n'était pas du tout son cas. Mais enfin, tout de même condamné à l'indignité nationale après la guerre. Et de l'autre côté, de mon côté paternel, une famille juive, donc pour qui la guerre a aussi été un moment extrêmement important, qui a dû fuir Paris, toujours plus au sud, c'est-à-dire Marseille d'abord, la Corse ensuite, et à la fin Alger. Mais voilà, une famille, les deux familles ont été très marquées par la Seconde Guerre mondiale. Je pense que mon rapport, mon intérêt pour l'histoire, en tout cas, vient tout de même de cette généalogie-là.
Oui, parce que vous êtes la fille de Tony Dreyfus, donc vraiment un personnage politique qui, ici, Tony Dreyfus, c'est cette famille juive que vous venez d'évoquer d'un côté, et de l'autre côté, la famille, c'est
Fabrelus.
Avec, dans cette famille-là, le grand-père. Et encore une fois, un effet générationnel, Pauline Dreyfus. Parce que quand vous nous dites « mon grand-père, pendant la guerre, a eu un comportement qui a fait qu'il a été condamné », on oublie aussi que les gens vivent longtemps après et qu'il y a ben, une autre histoire qui s'écrit en parallèle, des histoires publiques, des histoires intimes, mais aussi des prises de parole.
Pendant la guerre de 39-45, vous avez été plutôt un collaborateur ou plutôt un résistant ?
Alors, si vous voulez que je vous raconte ma guerre en deux mots, j'ai été d'abord mobilisé comme tout le monde, j'étais soldat de deuxième classe, chargé de protéger Paris contre les gaz asphyxiants. Alors, comme il n'y avait pas de gaz asphyxiants et qu'on était bien tranquille, j'ai commencé à écrire. Et puis, j'ai publié ce livre et je lui ai donné une suite. Alors, d'abord, on était sous le régime de l'armistice et mon censeur allemand a voulu me couper à peu près un quart du livre, tous les passages dont on pouvait dire qu'ils étaient anticommunistes. Enfin, je me suis débrouillé, j'ai attendu, et on a fini par m'autoriser à publier ce premier livre avec quelques coupures très faibles. Et puis ensuite, j'ai continué, estimant jusqu'à la rupture de l'armistice que l'armistice avait été une décision opportune, qui avait rendu service à la France, et qui lui avait épargné des souffrances et qui lui avait réservé des possibilités de résistance future. J'ai donc, si vous voulez, joué le jeu, tout en protestant contre ce qui me paraissait être les erreurs majeures de Vichy, par exemple le statut des Juifs.
Nous étions en 1974 quand Bernard Pivot, dans l'émission Ouvrez les guillemets, recevait Alfred Fabre Luce, qui est votre grand-père, et donc que vous avez bien connu.
Oui, oui, je l'ai bien connu, absolument. Et le livre dont il parle à Pivot, c'est ce livre qui s'appelle Journal de la France.
Alors là, c'était dans J'ai vécu plusieurs siècles, celui-là.
Ah, c'est J'ai vécu plusieurs siècles.
C'était celui-là.
D'accord.
Ouais.
Un livre de souvenirs.
Parce que le Journal de la France, ça aussi, ça a été un
livre. Non, mais le livre dont il parle à Pivot, qu'il a publié pendant la guerre, c'est Journal de la France, qui a eu 3 tomes. J'ai vécu plusieurs siècles, c'est dans les années 70, voilà. Et c'est un livre de souvenirs, en fait.
Et le livre qu'il a écrit pendant la guerre, enfin, ces volumes, ce Journal de la France, c'est ça qui lui a valu des ennuis?
C'est ça, dit-il, qui lui a valu des ennuis. Non, c'est surtout que, comme il le dit d'ailleurs dans l'interview, il a d'emblée été pour Pétain, pour l'armistice, et surtout très anti-gaulliste. Et ça, il l'est resté tout au long de sa vie. Il détestait le général de Gaulle.
Ah oui, parce qu'il va poser des problèmes, c'est sûr. Quand on veut faire carrière d'écrivain, il y a eu la condamnation, bien sûr, mais on sait comment c'est aussi. Une condamnation, une fois qu'elle est passée, on peut dire que les gens poursuivent leur vie. Et heureusement, la condamnation n'est pas à vie. Mais dans ce rapport que vous pouviez avoir, vous, Pauline Dreyfus, jeune, il y a cet intérêt pour l'histoire. Et on le voit nettement à travers vos écrits, partout ça transpire d'histoire. Il y avait la volonté de questionner comme ça, alors que ce soit votre grand-père, mais autour de vous, pour essayer de comprendre.
Ah ben oui, et là où j'ai le mieux compris, c'est quand j'ai fait un pas de côté par rapport à la fiction et que j'ai écrit une biographie de Paul Morand. Donc là, on n'était pas du tout dans la littérature, enfin on est dans la littérature parce qu'on parle d'un écrivain, mais j'ai fait un travail d'historienne, sans avoir les diplômes du tout.
C'est la démarche qui compte. Hein. Historien, historienne, c'est quand on respecte les règles de la discipline scientifique. Votre Paul Morand chez Gallimard a eu le prix Goncourt de la biographie et le prix de la biographie de l'Académie française.
Voilà, et Paul Morand était un ami de mon grand-père, d'ailleurs. Paul Morand, comme vous le savez, a eu d'énormes ennuis après la guerre. Il a été obligé de passer plus de 10 ans en Suisse. Il a été proscrit, il pouvait plus publié en France. Il a finalement échappé au procès en ne rentrant pas en France. Mais c'est un auteur qui est extrêmement clivant encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, les éditions Gallimard étaient pas très rassurées au moment où j'ai commencé à travailler sur Paul Morand. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient envisagé de rééditer les pamphlets de Céline. Et il y a eu une levée de boucliers, notamment du CRIF, si bien que Antoine Gallimard a été obligé de faire marche arrière. Alors il a dit c'est simplement reporté, mais je constate que ils ont toujours pas été réédités. Et donc Paul Morand, il est semblablement urticant pour certains. Et je dois dire que dans cette affaire, mon patronyme m'a été une armure. C'est-à-dire que je m'appelle Dreyfus. Et que on ne pouvait pas m'accuser d'antisémitisme avec un nom pareil. Or, Paul Morand, ce que j'explique dans la biographie, moi j'ai eu accès à des tas d'archives inédites, notamment son journal de guerre, il est vraiment tout à fait antisémite sans aucun doute. Longtemps on a dit non, c'était sa femme qui était une affreuse dame, en fait, il est pas mieux qu'elle. Et donc je le cite abondamment, mais on pouvait pas, grâce à mon nom, me taxer de sympathie, de collusion, d'indulgence. Et ça, je dois dire que c'était formidable. Parce que c'était quand même très délicat. J'étais sur une liste de crête. Vraiment pas facile. Il fallait quand même expliquer que c'est un très bon écrivain, enfin, selon moi. Mais que l'homme était totalement antipathique et a fait des erreurs monumentales dans son existence. Voilà.
Dreyfus, d'ailleurs, il y a un lien de votre famille avec le capitaine Dreyfus.
J'attendais votre question.
Ah oui, parce que on se la pose.
Mais hélas, non. Et j'aurais adoré. Et c'est une question qu'on se pose sur moi quasiment depuis que je suis née. Les conseils de classe quand j'étais au lycée et que les professeurs n'étaient pas d'accord. Il y en avait toujours un qui disait, on va pas faire une nouvelle affaire Dreyfus. Mais malheureusement, je n'ai pas de rapport avec le capitaine Alfred Dreyfus. Ou peut-être très lointainement, parce que c'est une famille originaire d'Alsace. Donc j'imagine que peut-être il y a 5 générations, voilà, il y avait un rapport.
On voit la force hein, des patronymes. Pauline Dreyfus, Dreyfus, et vous venez de le dire, conseil de classe, école, on entend Dreyfus. L'association est faite immédiatement avec le capitaine Dreyfus, l'affaire Dreyfus, et on oublie, parce qu'on ne le connaît pas, donc on ne le sait pas, l'autre famille. Mais vous, comme nous tous, sommes le fruit de l'ensemble de cette histoire.
C'est le grand mystère depuis le début de l'humanité, c'est comment être une personne unique en venant de deux personnes différentes. C'est un mystère absolument incroyable. Alors comme en plus, moi, ces deux milieux très très différents dont je viens, ça, je crois pas que je sois schizophrène, mais ça... Quelquefois, on peut se faire des nœuds au cerveau avec ce genre de sujet.
Ah oui, et puis avec aussi la volonté de se plonger dans cette approche, à la fois par la littérature, à la fois par la biographie, vous l'avez dit quand il s'agit de Paul Morand, se plonger dans des passés compliqués. Paul Morand, en 1951.
Éprouvez-vous parfois des sentiments dépressifs ou êtes-vous toujours très en train, satisfait, voire exalté ?
Non, j'éprouve très souvent des sentiments dépressifs, mais mes accumulateurs se vident très vite et je les recharge très très vite aussi.
Supportez-vous facilement un échec ou un revers ?
Oui, je considère toujours que c'est de ma faute et j'ai beaucoup de complexes.
Si le mot complexe arrive tout de suite.
Si le mot complexe arrive tout de suite, mais enfin, il est là.
Même si vous ne vous y êtes pas attardé sérieusement, vous est-il déjà arrivé de songer au suicide ?
Ah oui, souvent. Souvent, toutes les sortes de suicides.
Ah bon, parce que vous avez envisagé dans le détail.
Mais j'ai écrit un petit livre sur le suicide.
Êtes-vous toujours inquiet ? Avez-vous l'impression que rien de ce que vous faites n'est achevé ?
Ah, bien entendu. Je suis loin de penser que j'ai réussi à dire ce que je voudrais dire.
Avez-vous un besoin incessant de vérification et de scrupules ?
Oui, je suis extrêmement scrupuleux.
Ça se tient, du reste. Êtes-vous impressionnable et suggestible ?
Très impressionnable et très suggestible. Surtout en surface, et puis pas ensuite, et puis profondément à nouveau. Trois couches,
c'est pas mal quand même. Paul Morand, 1951. Paul Morand, et vous nous l'avez rappelé, qui est un écrivain complexe, antisémite de manière évidente, collaborationniste qui lui a valu d'ailleurs l'obligation de se cacher, de fuir. Vous avez consacré, Pauline Dreyfus, 2 ouvrages à Paul Morand. Il y a la biographie, bien sûr, chez Gallimard, et puis il y a Immortel, c'était chez Grasset.
Immortel, enfin.
Enfin, parce que c'était les candidatures à n'en plus finir de Paul Morand à l'Académie française.
5 candidatures de Paul Morand à l'Académie française. C'est une idée qu'il avait depuis 1936. Et ce qui devait au départ n'être qu'un simple sprint est devenu un marathon interminable, notamment à cause de son comportement pendant la guerre, puisque le général de Gaulle, qui était comme chef de l'État le protecteur de l'Académie française, ne voulait pas entendre parler de Paul Morand à l'Académie française. Le général de Gaulle lui en voulait beaucoup d'avoir fait cette chose insensée, c'est en juillet 40, d'avoir quitté Londres pour Vichy. Voilà, il avait vraiment aucun sens de l'histoire. Et quand De Gaulle et les premiers gaullistes, les gens de la France libre, sont arrivés à Londres, ils ne connaissaient personne. Et ils se disaient que Morand leur aurait beaucoup aidé avec son réseau, simplement il n'était pas là. Le général de Gaulle a dit « il nous a manqué ». C'est très juste. Donc, le général de Gaulle, qui était rancunier, ne voulait pas entendre parler de Paul Morand à l'Académie française. Il ne s'est adouci que sur le tard. Et Morand est entré finalement en 1968 à l'Académie. Il avait quand même 80 ans déjà. Il n'était pas tout jeune. Ça a été une très très longue aventure. Donc voilà, en effet, j'ai commencé Paul Morand par ce biais-là. Et c'est ce qui a donné l'idée à Gallimard de me proposer cette biographie chez Gallimard.
Il entre à l'Académie française en 1968. Paul Morand meurt en 1976. Vous étiez toute jeune, hein, la Pauline
Dreyfus. Oui, j'avais 6 ans.
6 ans. Mais alors, ami de votre grand-père, est-ce qu'il est possible que vous l'ayez croisé chez votre grand-père ?
Il est possible que je l'ai croisé, mais je vous rappelle que c'est une époque où, quand il y avait des grandes personnes, comme on disait, on rangeait les enfants. Donc, je pense pas vraiment que je l'ai croisé. Et en plus, lui, à mon avis, ne s'intéressait pas du tout aux enfants. Ce qui est intéressant, dans votre archive, on lui pose une question sur le suicide. Et il dit, j'y ai pensé énormément. Moi, je pense qu'en fait, il s'est suicidé. Enfin, c'est un suicide indirect. C'est-à-dire que on est l'été de la sécheresse, en 1976, il fait très très chaud à Paris. Il a 88 ans, il a des problèmes de cœur, et il va faire du sport à l'automobile club, alors qu'il fait 40 degrés. Moi, j'appelle ça un comportement un peu suicidaire. Sa femme était morte 18 mois avant, et au fond, il avait perdu le goût de la vie.
Ce goût de la vie, c'est aussi étudier ces gens, ces existences, parce que la vie, c'est ça. Et on le voit bien quand on réfléchit à des générations à travers Un pont sur la Seine, dans votre roman Apolline Dreyfus, on a des histoires qui sont très incarnées. C'est aussi la force de la littérature, ce pont entre le passé et la fiction, la littérature et l'histoire. C'est aussi conduire le lecteur, la lectrice à explorer ces mondes-là. Vous tendez ce pont, il n'y a plus qu'à le franchir, et pour reprendre Brassens, c'est tout de suite l'aventure.
Et c'est tout de suite l'aventure, parce que le passé nous réserve toujours des surprises. Ça, c'est évident. Il y a un mot, enfin une expression que j'aime pas beaucoup, qui est roman historique, qui me semble assez absurde, parce qu'au fond, hormis des romans très contemporains où Paul rencontre Agathe sous l'abribus, un roman est forcément historique. Il est enchâssé dans une époque donnée. Et c'est ça qui est intéressant pour le romancier. C'est que ça suppose tout de même un travail de recherche. En effet, on imagine des histoires, la fiction. Mais il ne s'agit pas de dire des bêtises. Donc, il faut tout de même vérifier tout ça d'une façon extrêmement précise. Et c'est là où je trouve que le travail du romancier n'est pas si différent du travail de l'historien. Ce travail minutieux d'archives, de recherche, de tâtonnement, de se poser des questions. Quand j'ai écrit la biographie de Paul Morand, j'ai fait le même travail finalement. Et puis, une biographie, c'est tout de même de se plonger dans la psyché de son sujet. Donc, on arrive très vite sur un terrain psychologique qui est le terrain du romancier. Pourquoi est-ce qu'on fait telle chose tel jour? Quelle est la, qu'est-ce qui peut, dans une généalogie, dans un passé, expliquer tel comportement? Il y a toujours des explications qu'on peut avoir. Quand on a envie de comprendre, c'est passionnant comme travail à faire.
Vous dites une chose très juste, Pauline Dreyfus, et pour être membre de plusieurs jurys de romans historique notamment, c'est toujours la question qui est posée, tous les romans historiques, dès qu'il s'agit du passé. On peut exclure la science-fiction, mais tout le reste est roman historique. Après, c'est voir la part laissée par l'histoire et combien une œuvre peut nous donner à comprendre un moment, une période. Et là, on peut toucher à quelque chose où le roman aide à saisir l'histoire. C'est le cas avec Un pont sur la Seine. On saisit ces évolutions qui sont très lentes. Mais vous avez raison de le dire, tout est délicat, tout est subtil. Et c'est cette porosité, je me permets d'en ajouter une autre, c'est l'écrit et la littérature. Un pont sur la Seine se lit sublimement bien, mais historien, historienne, utilise également comme vecteur l'écriture. Donc même un roman d'histoire au sens discipline scientifique mérite d'être bien écrit parce que ça se lit aussi.
Absolument, mais moi ce qui me frappe chez les historiens jeunes et dans les publications historiques actuelles, c'est que les historiens sont devenus de très bons conteurs. Ce qu'ils n'étaient pas autrefois. Ça me frappe, j'ai lu des biographies formidables qui se lisent comme un roman, vous voyez, c'est vraiment l'expression. On tourne des pages, merveilleux, je pense à L'Aiglon de Laetitia de Witt, et elle vient de publier un livre sur Madame Mère, la mère de Napoléon.
Laetitia aussi.
Dont elle descend. C'est un livre impeccable sur le plan historique, et en même temps qui se lit avec une fluidité formidable.
Et puis, merci à vous de rappeler combien les ouvrages d'historiennes, d'historiens se lisent bien, parce que ça fait un peu peur parfois quand on n'est pas plongé. C'est notre travail dans le cours de l'histoire aussi de donner envie de lire les ouvrages, et dès lors, passer par la littérature, c'est aussi une étape, et c'est pourquoi je vous remercie vivement, Pauline Dreyfus, d'être venue dans le cours de l'histoire.
Merci à vous.
Un pont sur la Seine, on l'a pas cité tant que ça, mais il y a la Seine en dessous. Alors, laissons la parole à Jeanne Moreau et Prévert.
La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce le jour comme la nuit. Et elle sort de sa source, tout doucement, sans bruit, et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit. Elle s'en va vers la mer, en passant par Paris. La Seine a de la chance. Elle n'a pas de soucis, et quand elle se promène tout le long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame, jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la scène s'en balance. Elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce le jour comme la nuit et s'en va vers le Havre et s'en va vers la mer en passant comme un rêve au milieu des mystères, des misères de Paris.
L'immense plaisir d'écouter la voix de Jeanne Moreau et les mots de Prévert dans le cours de l'histoire. Mais voici maintenant venu le temps du Filhistoire. Le Filhistoire, vous le savez, c'est la chronique toutes les semaines dans le cours de l'histoire et que vous retrouvez en vous abonnant au podcast Le Fil Culture G. C'est sur les réseaux sociaux, c'est en ligne, c'est partout avec des vidéos en économie, en sciences. Nous, Le Filhistoire, c'est Emmanuelle Arioli, médiéviste bien sûr, et Emmanuelle est l'auteur du Chevalier au Dragon. C'est toujours un plaisir d'écouter Emmanuelle Arioli.
Avant TikTok et ses tutoriels beauté, les conseils de skincare circulaient déjà, et ce, dès le Moyen-Âge. À latin, bien sûr. Et si je vous disais qu'à l'époque, on proposait déjà une routine complète ? Un millénaire avant les influenceuses, il y avait Trotula de Salerne. Trotula, c'est une femme médecin des 11e-12e siècles. Elle enseigne à l'école de Salerne, dans le sud de l'Italie, la plus ancienne école de médecine en Europe. Et particularité unique, les femmes y enseignaient et y soignaient. On attribue à Trotula le De Ornato Mulierum sur la parure des femmes. C'est le premier manuel de cosmétique scientifique en Europe. Et sa routine beauté a de quoi faire pâlir les influenceuses. On commence par un bon bain. Eau chaude, savon, si possible français, précise-t-elle, puis rinçage au sang de blé. Ensuite, on applique un masque exfoliant à base de résine, cire et huiles essentielles, un gommage d'exception. Puis on a l'embarras du choix entre les masques, par exemple au miel, camphre et mauve, et les crèmes, par exemple au suif de serre et à la poudre de cristal. Pour la bouche, baume à lèvres au miel, pour des baisers sucrés, puis rouge au bois de Brésil. Et comme fond de teint, la céruse, ce mélange de plomb et d'arsenic pour obtenir un teint blanc. Autant vous dire que c'est hautement toxique, mais on était moins regardant à l'époque. Trotula précisait quand même avec modération car il peut abîmer la peau. Bon réflexe, 1000 ans avant les dermatologues. Et ce qui fascine, c'est que des études scientifiques récentes, menées par des biologistes et des pharmaciens, se sont penchées sur les recettes de Trotula. L'efficacité de certaines impressionne. La science moderne redécouvre alors ce savoir féminin ancestral, longtemps méprisé. C'est en réalité un véritable trésor, transmis de femme en femme pendant des siècles. De Trotula à notre cosmétique contemporaine, on retrouve les mêmes gestes, la même logique de soins, nettoyer, exfolier, nourrir, réparer et des ingrédients encore présents dans nos produits de beauté. Mais au Moyen-Âge, l'Église s'indigne. Le discours le plus virulent vient de l'inquisiteur dominicain Étienne de Bourbon au XIIIe siècle. Il écrit les pires horreurs. « Une femme est comme un dragon, dit-il. Plus elle est teintée de rouge, plus elle est dangereuse. » Se maquiller est même considéré comme un double péché mortel, à la fois d'orgueil et de luxure. C'est diabolique. Pourtant, Trotula, elle soignait. Elle avait déjà inventé la médecine du bien-être, et une médecine entièrement adressée aux femmes. Et aujourd'hui, on redécouvre ce que Trotula savait déjà. Les secrets de beauté passent d'abord par le soin. On rejette les produits chimiques, on revient au miel, aux plantes, aux argiles, aux ingrédients naturels d'il y a un millénaire. Car oui, la skincare, c'est très médiéval. Alors la prochaine fois que vous appliquez une crème de nuit, pensez à Trotula. Aujourd'hui, elle serait une dermatologue aux millions de followers.
Merci Emmanuelle Arioli. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copé, Solène Roy et Mayouen Guizio. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.